Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue pour cette émission Cinérama du mercredi 3 décembre. Nous allons parler de choses plutôt affreuses, hein, parce que j'ai noté qu'on va parler de la Shoah, de la télépoubelle, de Fidel Castro, on va parler de crimes...
sanglants.
Voilà, sanglants. Et puis, des contrastes au Nicaragua. Voilà, c'est le sommaire de ce cinérama. Mais dans le détail, ça donne quoi, Marine ?
Alors, moi, pour ma part, je vais vous parler donc de deux films très, très différents. « À la vie » de Jean-Jacques Zilberman et « Alléluia » de Fabrice Duvels.
Et puis, toi,
pas sûr, c'est comme ça.
Et toi, Manu ?
Donc, je vais vous parler de Night Call, un premier film. Hein, et puis, je vais inaugurer mes chroniques sur la Hammer avec la série des Quatermass.
Voilà, pas un film, mais trois films. Et puis, moi, je vous parlerai de Secret d'État avec Jérémy Reiner. Et puis, l'interview de cette émission, ce sera Laurent Cantet. Laurent Cantet, le Palmé d'Or, qui revient avec un film Retour à Ithaque. C'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et on commence donc avec À la vie. Alors dans À la vie, trois femmes, 15 ans après l'Holocauste, se retrouvent à Berck afin de passer quelques jours en bord de mer. Elles se sont connues au cours de la déportation et ont réussi chacune à refaire leur vie. Il y a Hélène, interprétée par Julie Depardieu, empêtrée dans un mariage un peu frustrant avec Hippolyte Girardot. Lily, campée par Johanna Derstige, qui veut concilier féminisme et judaïsme. Et Rose, jouée par Suzanne Clément, qui refuse catégoriquement d'entendre parler de leur passé douloureux. À la vie est le sixième film de Jean-Jacques Zilberman, davantage récompensé d'ailleurs pour son œuvre au théâtre qu'au cinéma, et à qui l'on doit, entre autres, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, et l'homme est une femme comme les autres. Zilberman a donc un certain talent pour trouver des titres à ses films, mais beaucoup moins, en revanche, pour les réussir. Si l'Holocauste reste une mine intarissable d'inspiration pour le cinéma français, force est de constater quand même que les exemples de réussite sur ce sujet ne sont pas nombreux, à moins que vous ayez des contre-exemples. Moi, j'en ai pas trouvé des masses. Et À la vie, encore une fois, le prouve. Alors, ça se voudrait léger et poignant à la fois, une sorte d'ode comme ça à la féminité, à la liberté retrouvée. Autant vous dire que c'est tout l'inverse. La mise en scène est extrêmement poussive. Impossible de savoir si c'est dû au montage, aux dialogues qui sont terriblement mous, ou encore à la direction d'acteurs qui les poussent vraiment à être très mauvais. On va écouter un court extrait et dans lequel il y a en bonus une blague carambar.
Pendant la guerre, Hitler, il était là, face à l'Angleterre, il n'arrivait pas à y aller. Ça le rendait fou. Puis un jour, il y a Moïse, juste à côté de lui. Il dit, comment vous avez fait, vous, avec la mer Rouge ? Il dit, moi, c'est pas compliqué. Dieu, il m'a donné un bâton, j'ai fait comme ça, et la mer s'est ouverte. Formidable, je le veux, le bâton, il est où ? En face, au British Museum.
Voilà, cet extrait résume assez bien en fait notre réaction face au film. Hein. C'est un peu comme les comédiens, on s'ennuie beaucoup et on est quand même assez gêné d'être devant tout ça. Alors est-ce un problème de casting, un problème d'alchimie entre les comédiennes ? Suzanne Clément qui est quand même d'une des comédiennes fétiches de Xavier Dolan hein, et qu'on a vu au cours des dernières années prendre à bras-le-corps des rôles quand même assez difficiles et ici totalement sous-exploitée, Julie Depardieu également. Enfin voilà, l'ensemble en fait du film a des allures comme ça de pièces de théâtre amateur dans laquelle chacun attendrait de dire sa réplique avec application, sans aucune conviction. Entre deux cornets de glace au bord de mer, on s'improvise des séances de psychanalyse entre copines. La lumière est très soignée, voilà, c'est le seul truc qui va bien en fait dans le film parce que rien ne sonne juste, il y a des faux raccords à la chaîne. En fait, le film pourrait même être utilisé en fait dans un cours de ciné première année pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film. C'est-à-dire que même la nuit américaine est mal faite, c'est quand même une des choses qu'on fait, je pense, dans les films depuis le plus longtemps. Il serait temps qu'on commence un peu à savoir faire une nuit américaine. Et ben non, même ça, vraiment, c'est un plantage. Total, j'ai envie de dire, c'est un vrai génocide. Voilà, complètement.
On continue dans les blagues alors, c'est ça.
On continue.
Voilà, c'était À la vie.
À donc, la vie.
Voilà, c'était la chronique massacrée d'un film qui, semble-t-il, n'est pas réussi. Et maintenant, nous allons passer à un film qui, lui, est franchement réussi, c'est Night Call.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Oui, on va remonter nettement le niveau hein, avec Nightcall. Alors déjà, pourquoi remplacer un titre anglais par un autre titre anglais quand la signification de l'original est vraiment aussi pertinente ? Alors Marine m'a dit parce que c'était les producteurs de Drive apparemment et qu'il fallait reproduire un peu...
Oui, c'est pour évoquer le morceau phare de la bande-son de Drive.
Ça aurait dû s'appeler... Non mais dites-le, voilà. Ça aurait dû s'appeler Nightcrawler,
Nightcall est en réalité Nightcrawler, qui veut dire « ver de terre », ce qui vraiment est en adéquation avec le personnage principal, l'une des figures les plus excitantes et inquiétantes vues au cinéma depuis des lustres.
Bonjour monsieur, je cherche du travail, je suis très motivé et j'aime les défis. Ma devise c'est, si on veut gagner le gros lot, il faut bosser pour se payer le billet de loterie. Qu'est-ce que vous en dites ?
Non, j'ai besoin de personne.
Je me lance dans le reportage télé. Je filme des sujets à chaud. Bonjour, j'ai quelque chose qui va vous intéresser.
Vous êtes doué ? Rappelez-moi quand vous aurez d'autres images.
Des images de ce genre ?
Mon JT, c'est une femme qui court en hurlant au milieu de la rue, la gorge tranchée.
On va se reparler dans pas longtemps. Faut appeler les flics ! On les appellera, mais en temps utile. Il faut trouver qui conduisait la voiture. Vas-y, filme ! Oh putain !
Je suis l'inspecteur Fonteri, je crois que vous cachez des informations. Je crois que Lou pousse toute l'équipe à se dépasser.
Alors au départ, hein, Lou est vaguement, on va dire, un petit délinquant sans boulot, hein, à peu près normal en apparence. Seule sa manière de s'exprimer, un peu très obséquieuse et plaquée, comme s'il récitait un cours de management ou une publicité sur les vertus d'un produit, le produit étant même en lui-même, nous met un peu la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui cloche chez ce type seul et ordinaire. Alors par hasard, il découvre un métier dont il ignorait l'existence, hein, non pas vraiment reporter, hein, mais chasseur d'images choc. Un métier de charognard où le but est d'arriver le plus rapidement possible sur les lieux d'un accident bien trash ou d'un meurtre crapuleux afin d'être le premier à filmer l'horreur et de vendre les images au plus offrant. Alors, très jolie conception du travail, mais après tout, il n'y a pas de métier ingrat et on peut très bien faire celui-ci avec un certain recul, une distance. Mais Lou est un sociopathe, un vrai, et de surcroît un manipulateur absolument effrayant. Il s'achète une caméra d'occasion et un scanner pour capter les appels téléphoniques des flics et se met en chasse, avec une avidité, une absence de morale et d'éthique qui laisse froid dans le dos. Il va trouver donc une chaîne de télé qui va accepter ses images grâce à la patronne de l'info, Nina Romina, interprétée d'ailleurs par une revenante, René Russo, très, très vieillie, je trouvais. Une prédatrice ambitieuse qui, par un effet pervers, va se retrouver dominée par Lou, le personnage, alors je sais, je me répète, peut-être le plus abject que j'ai pu voir au cinéma depuis longtemps. Et pourtant, s'il n'est responsable de la mort de personne, il est responsable, je veux dire, de la mort de certaines personnes, mais il ne tue personne, en fait, directement. Son idée fixe est de capter les images les plus fortes et sanglantes à n'importe quel prix et de l'enrober d'un discours et d'une argumentation publicitaire qui laisse quand même pantois. Il faut voir la manière dont il va se servir d'un jeune stagiaire naïf pour mesurer le pouvoir tordu de ce monstre moderne. Alors du coup, la critique du cinquième pouvoir paraît presque anodine, convenu tant le personnage principal vampirise littéralement le film. Il faut dire que Jack Gyllenhaal, hein, qui avec 10 kilos de moins et puis vraiment des yeux qui lui sortent de ses orbites, est impressionnant de bout en bout. Alors sa diction, son regard, sa manière de se déplacer en pleine action sont les points forts d'une performance unique. Alors le réalisateur, hein, Dan Gilroy, est un scénariste à la base assez chevronné. On lui donne notamment le dernier Jason Bourne que son frère a réalisé. Alors âgé de 55 ans, là il s'agit de son premier film. Le plus surprenant est qu'il s'agit aussi d'un vrai film de metteur en scène évoquant les premiers films de Walter Hill ou certains Michael Mann. Voilà, Los Angeles la nuit est magnifiquement filmé et éclairé. Alors en dépit de la redondance du déroulement de l'histoire, Nightcall est une totale réussite, hein, une œuvre maîtrisée, portée par la folie de son acteur principal et dotée aussi de quelques poursuites en voiture assez impressionnantes. Bref, un film... Et puis, c'est un film qui ne tombe pas dans le travers de la rédemption. Le film reste très noir jusqu'au bout et...
Ah bah de toute façon, c'est un manuel d'amoralité, enfin, ce type, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la critique des médias, alors qui n'est pas nouvelle, la critique des télévisions américaines, alors ça n'a rien à voir, le paysage audiovisuel américain n'est pas le paysage audiovisuel français. Il y a des télés locales qui font la course à l'audience. Mais donc, il y a cette télé qui est mise, enfin voilà, qui est scrutée un peu, mais il n'y a pas de critique véritablement d'Internet, en revanche.
Non.
Sauf à travers ce personnage qui, lui, tout ce qu'il dit, tout son discours, de management, de libéralisme et tout ce qu'il conduit finalement à réorchestrer des scènes de crime, eh bien ça lui vient de toutes ses lectures, il le dit de lui-même. Hein. Il le dit, ah non mais je lis beaucoup sur Internet, on trouve tout sur Internet, enfin voilà. Et je trouve ça assez subtil, mine de rien, voilà. C'est pas une critique franche, mais c'est... voilà.
Puis le film est parfois très drôle, c'est-à-dire que la noirceur elle est quand même atténuée par un humour très froid, mais je trouve que le film est parfois très drôle.
Mmh. Et puis des images, alors là aussi, en termes de mise en scène, ce sont des images la plupart du temps tournées la nuit, donc ça donne un cachet particulier à ce film.
Oui, moi j'ai pensé beaucoup à un film justement de Michael Mann, Le Solitaire, dont on retrouve vraiment cet aspect visuel, un mélange de couleurs et de... Parce qu'il filme vraiment remarquablement Los Angeles la nuit, hein, c'est assez étonnant. Enfin, vraiment, moi je le conseille à tout le monde. Hein.
Et puis effectivement l'interprétation, comme tu le dis, remarquable, il a perdu du poids, on le sent obsessionnel complètement, enfin voilà, tout ça est très bien réussi. Et il a un côté machiavélique et évidemment, vous en apercevrez si vous allez voir donc Night Call à peu près sur tous les écrans.
C'est un état d'esprit.
Cinérama, chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Alors, qu'est-ce que Cuba? Comment y vit-on politiquement? Que reste-t-il depuis l'arrivée au pouvoir de Castro? Eh bien, on peut s'apercevoir que cette île divise.
L'expérience de Cuba est intéressante.
Mmh. Ah non, mais là, Cuba, ça n'a rien à voir. Ben non, parce que là-bas, t'as pas le droit d'être pauvre. C'est-à-dire que t'es obligé de travailler. Mais même en faisant semblant, hein, les gars, là-bas, ils foutent rien. Hein. Ils fument le cigare en goudron dans la route.
Hein. Oui, mais on peut dire qu'ils ont la mortalité infantile la plus basse d'Amérique latine. Et tous les enfants vont à l'école qui est gratuite. Mmh. Et je crois qu'il y a un habitant pour 15 médecins. Enfin, un médecin pour 15 habitants.
50 habitants, mais ça, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Ils sont dans un état de pauvreté, mais incroyable. Incroyable. Vous savez ce que c'est, les transports en commun là-bas?
Non.
Ça fonctionne avec des bicyclettes. Ouais. Non, ils sont extrêmement rationnés.
Mais vous êtes déjà allé à Cuba?
Non.
Voilà, donc ça, c'est un extrait, non pas de Retour à Ithaque de Laurent Cantet, mais de Dieu seul me voit, film de Bruno Podalydès. Et si j'ai sorti cet extrait, c'est parce que c'est une espèce de gimmick qui revient dans le film. C'est quoi penser de Cuba, finalement? Parce que dans ce film, il y a certaines personnes qui disent tout ce qui se passe à Cuba, c'est vraiment l'horreur, et d'autres qui défendent Cuba. Voilà. Et donc, Laurent Cantet, lui, eh bien, nous emmène à La Havane. On est sur une terrasse. Il y a 5 amis qui s'y sont retrouvés pour faire une petite réception. Alors, ils ont la cinquantaine, des souvenirs communs. Alors, il y a d'abord les bons souvenirs et puis les plus mauvais ensuite. Hein. Et s'ils font cette réception, c'est pour accueillir Amadeo, l'un des leurs, qui est de retour d'un exil qui a duré plus de 15 ans. Il était en Espagne. Alors, cette soirée, la nuit qu'il passe, et Cantet nous dira dans l'interview qu'on va écouter, eh bien, que c'était important qu'il passe la nuit, eh bien, pendant cette nuit, on assiste à une radiographie de Cuba. Ce qu'elle est, ce qu'elle fut, et plus important aussi pour le projet de Cantet, ce qu'elle promettait d'être. Car Cantet questionne l'utopie dans ses films et distingue ce qui sépare l'utopie de la réalité, de Foxfire à Ressources humaines en passant par Entre les murs. Alors on va écouter Laurent Cantet qui nous parle donc de ce film Retour à Ithaque qui sort ce mercredi 3 décembre et puis après on en parle.
Eva Maria se fue buscando el sol en la playa.
C'est pas une adaptation. Quand j'ai rencontré Leonardo Padura, c'était au moment où je commençais à réfléchir au court-métrage de 7 jours à La Havane. Et on a commencé par travailler sur cette idée que je lui ai proposée de récupérer le personnage du Palmier et l'Étoile, un de ses livres que je préfère. Ce personnage qui revient après de longues années d'exil et qui va retrouver sa bande de copains. Et il me semblait que ça permettait de faire justement une espèce de point sur ce que ça signifie que de d'abord parler de l'exil, parler de toutes ces désillusions aussi, parler de la complexité des choses qu'on a vécues chacun de son côté. Enfin, ça me semblait être riche en émotions aussi, mais tellement riche que les 15 minutes qu'on me donnait pour le court-métrage m'ont vite semblé insuffisante et du coup on a arrêté de travailler sur ce projet-là à ce moment-là et on l'a développé dès qu'on a pu pour en faire ce long-métrage.
Tengo una cosa aquí, hace 16 años. ¿Por qué coño te fuiste como te fuiste, hein?
Le film n'est pas une dénonciation de Cuba. D'abord, Cuba, j'aime trop ce pays, j'aime trop les gens qui y vivent pour avoir envie de parler à leur place, si vous voulez. Ce qui me semblait important dans cette histoire, c'est quand même d'écouter toutes ces histoires. Et il me semblait que pour les écouter vraiment, il fallait leur accorder une attention assez grande, quoi. Se laisser porter par leur récit, par leur émotion à eux tous aussi, et puis être proche des visages, parce qu'il me semble que les visages disent beaucoup de choses aussi, enfin leur fatigue aussi qui s'impose progressivement, tout ça me semblait être le sujet du film. Et j'ai donc décidé d'assumer cette dimension très théâtrale, en essayant malgré tout que le langage, lui, ne soit tout sauf théâtral, quoi. Du coup, on a pris un langage très quotidien, ils passent leur temps à s'injurier et à utiliser des mots que je n'oserais même pas répéter ici. Et puis surtout, ils parlent un petit peu à l'antipode de ce qu'on entend au théâtre. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément qu'une phrase soit finie pour en commencer une autre, parce que quand on est dans un groupe de copains, on peut se couper la parole, on peut parfois parler tous ensemble.
Miren el pelo de él.
Mira que hicieron cosas para jodernos la vida. Y el pelo largo. Yo oí música americana. Ay, papá. Penetración cultural.
Un des enjeux du film pour moi, c'était comment partir de cette espèce de bonheur réel à se retrouver comme ça, puis de passer par des moments de sincérité telle que forcément ce qu'on se dit à ce moment-là devient douloureux. Et puis ensuite, le gros enjeu du film et de la mise en scène et du jeu des acteurs était de faire que cette bande résiste à cette nuit-là. À deux caméras aussi, et puis en utilisant ce qui me semble le plus important maintenant, plus que à la limite les deux caméras, sauf que les deux caméras le rendent possible, c'est en tournant chaque scène du début à la fin. C'est-à-dire que je ne fractionne pas les scènes en plans, j'ai l'impression de tourner des plans séquences à chaque fois où on commence à la première ligne et on va jusqu'à la fin. Parfois ça peut durer 10 minutes. Et chaque fois qu'on recommence, qu'on change d'axe de caméra, on recommence du début à la fin. Et là, j'ai l'impression que du coup, ça donne cette espèce d'abord de fluidité au montage, et puis ça donne aussi aux comédiens une justesse que moi qui m'impressionne toujours, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se rappeler dans quel état ils étaient au moment où on les a quittés, mais ils sont vraiment dans la logique de la scène, dans l'émotion, dans le... Et même si au début ça a parfois un peu, non pas agacé, mais fatigué les comédiens, parce que c'est vrai que quand on a une scène qui dure 7, 8, 10 minutes, l'enchaîner comme ça dans son intégralité, c'est épuisant. Au bout de 2 ou 3 jours, par contre, quand je leur disais « bon, il me manque juste cette petite phrase, là, on va la faire seule », ils me disaient « non, non, on va recommencer au début ». Voilà, ils avaient eux aussi ressenti combien cette manière de tourner les portait, quoi. Au montage, je coupe dans les plans séquences. Mais je continue à garder presque une image de plan séquence. Pour moi, ça reste cette continuité réelle de l'action, quoi.
Ustedes saben lo que dice este berraco, que viene a quedarse.
Alors, il y a des petites chansons comme ça, nostalgiques. Voilà, donc retour à Ithaque de Laurent Cantet, une espèce de radiographie de la Havane et de toute cette génération qui, en fait, une fois que l'URSS n'a plus soutenu l'île, eh bien, a compliqué un peu la donne, parce que déjà, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils étaient plutôt portés par une certaine utopie, ils vivaient bien ensemble, et après, ça devenait plus compliqué. Une fois qu'il n'y a plus l'URSS, c'est toujours cet embargo américain, effectivement. Alors, Marine, d'un point de vue cinématographique, en revanche.
Moi, personnellement, je préfère quand ils filment les jeunes plutôt que les
Fox
vieux.
Pour Foxfire, non ?
Et Entre les murs aussi.
Entre les murs.
Donc, voilà, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui lui va mieux. Non, là, j'ai un peu eu l'impression, en fait, d'être devant une telenovelas. Donc, c'est-à-dire ces espèces de soap mexicains, vraiment très indigestes, où chacun ne joue pas très bien, vraiment, je trouve. Enfin, tous les dialogues, rien n'est vraiment juste. Non, vraiment, je n'avais pas trouvé, en fait, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Voilà, ça paraissait assez artificiel, toutes les scènes et l'alchimie entre les comédiens qui est justement assez absente.
D'accord. Alors, moi, je n'ai pas du tout le même avis et je rejoins, d'ailleurs, c'est ce que j'aime chez Laurent Cantet dans sa manière de filmer, donc de prendre deux caméras, de tourner en plan séquence et ensuite d'alterner les plans dans le montage. C'est comme effectivement une pièce de théâtre, hein, parce que c'est très bavard, mais il arrive quand même à mettre du rythme là-dedans. Alors après, c'est vrai que c'est des questions politiques, c'est un questionnement politique, donc c'est peut-être ça qui complique un peu le regard qu'on peut porter sur cette histoire. Mais la question, j'avais posé la question parce qu'on l'avait vu ensemble, Marine, et tu avais dit, bon, c'est un film quand même pour une génération assez âgée. Et j'ai posé la question à Quentin, et lui, dans toutes les projections qu'il a fait pour sa promotion en France, il a été surpris de voir finalement des jeunes qui étaient aussi intéressés par ces questionnements. Voilà,
parce que Cuba est une île qui attire, oui, c'est sûr. Voilà, je pense que c'est forcément un sujet qui est quand même assez porteur pour un film. Bon, après, voilà, au niveau de la mise en scène, au final, je ne pense pas que ce soit totalement réussi.
Mais voilà, bon, après, ça peut être un film qui peut paraître indigeste, voilà. C'est quand même 1h40 avec beaucoup de dialogue, mais allez peut-être voir ce qui se passe sur cette terrasse de la Havane. C'est Retour à Ithaque et c'était Laurent Cantet dans Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alléluia, enfin un bon film. Donc en effet, je vais vous parler de Alléluia de Fabrice Duvels. Et je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Hein. Si quelqu'un peut m'aider.
Duvels. C'est un Belge. Hein,
bon, bah, très bien. Donc c'est bon. Alors je ne m'étais pas trompée. Gloria est une quadragénaire qui travaille à la morgue et élève sa fille seule. Comme beaucoup de femmes de cet âge-là, elle a mis sa vie amoureuse entre parenthèses jusqu'au jour où elle accepte, poussée par une amie, de rencontrer Michel, un fringant célibataire qui réveille chez elle les affres de la passion. Mais sous ses dehors de gentleman, le séducteur s'avère être un dangereux manipulateur qui profite de la solitude des femmes pour les escroquer. Ça ne va pas arrêter Gloria pour autant, qui décide de le suivre dans son odyssée sanglante.
Michel vous attend pour un déjeuner en toute simplicité.
Attentionné. C'est ce que ça veut dire.
Qu'il fasse tout ce que tu veux.
Ouais. Ça peut être bien comme amoureux pour toi, vraiment, ça.
Je suis content de faire votre connaissance. C'est encore plus joli que sur la photo. Alors, à la passion. Et aux bonnes choses.
Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie. Je te revois quand.
Bon, je peux t'expliquer si tu veux. Tu sais, j'ai pas vraiment de magasin de chaussures.
Si, si.
Tu devrais rentrer chez toi, Gloria.
Tu continueras à faire ce que tu fais. Et moi, je t'assisterai.
Faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi.
Mais je ris, c'est de l'humour.
Qu'est-ce que tu vas faire avec cette femme ?
Ce qu'il faut pour lui prendre son argent.
Tu coucheras avec elle ?
Mais non, je t'ai déjà dit que je coucherai plus qu'avec toi.
Non, pas tout, je ne fais pas. Je ne fais pas.
C'est ainsi donc que le couple maudit part dans un road trip qui mélange sorcellerie, vaudou et giallo, écrivant à quatre mains plus une hache, une tragédie en trois actes, inspirée par ailleurs d'un fait divers américain. Alors après le dérangeant et réussi calvaire, Fabrice Duvels retrouve les très cinégéniques paysages des Ardennes et le non moins cinégénique Laurent Lucas, qui passe donc de victime traquée par Jackie Berroyer à prédateur de veuve éplorée. On peut dire que Alléluia concilie l'esthétique du giallo et le naturalisme du film d'auteur. Et cette alliance assez audacieuse est vraiment une vraie réussite. On va voir en fait à la fois des scènes très austères, très froides. Tout le film est tourné en pellicule. Et des scènes vraiment beaucoup plus oniriques avec des éclairages et des effets visuels recherchés. Ce qui rend le film constamment surprenant. À l'inverse de À la vie, qui est vraiment tout un cinéma frileux, on peut dire. Alléluia symbolise vraiment au contraire un cinéma sans concession, qui n'a pas peur d'aller loin. Aucune morale ne vient déranger la crudité du film et la représentation que l'on y voit de l'amour est assez contre nature et assez perturbante. Et ça tombe bien parce que vraiment toutes les comédies romantiques à la con, on commence vraiment à en avoir marre. Laurent Lucas, trop rare d'ailleurs dans le cinéma français, joue très bien les psychopathes, mais bon, ça c'est pas une surprise. On l'avait déjà vu tenir ce rôle dans Contre-enquête, un film assez méconnu avec Jean Dujardin, qui était sorti il y a une petite dizaine d'années, bon, qui avait pas fait grand bruit. Mais alors, en revanche, la vraie révélation du film, c'est vraiment Lola Duenas, l'une des actrices fétiches de Almodovar. Comme quoi, on peut redevenir une révélation à 40 ans passés, après 20 ans à faire des films, c'est possible. Et on peut vraiment dire que dans le film, elle est vraiment incroyable. En fait, la plupart du temps, les personnages de psychopathes féminins sont soit très froids, soit très hystériques, voire possédés. Ici, elle fait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'elle a une espèce de candeur psychotique qui est vraiment surprenante, qu'on n'a jamais vue dans d'autres films. Et au final, c'est vraiment elle qui emporte tout dans le film, même si c'est vrai que le film repose vraiment sur le duo qui est excellent. Allez le voir, c'est très surprenant. Si vous trouvez une salle qui le passe, parce qu'il n'y en a quand même pas énormément, je pense qu'il n'y a pas de beaucoup de copies, vu qu'en plus, comme je l'ai dit, le film est en pellicule, il n'est pas trouvable vraiment dans toutes les villes. Mais ne passez pas à côté si vous avez l'occasion.
Alléluia.
Il me semble que le film s'inspire de la même histoire qui a inspiré Le Tueur de la Lune de Miel et aussi un film mexicain d'Arturo Ripstein, Carmin Profond.
Pour le premier, en tout cas, oui, tout à fait.
Voilà, c'est une histoire qui s'est déroulée dans les années 60.
50-60, oui. Mm-hmm. Ouais. Merci Manu pour ces précisions.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Et nous allons parler de Secret d'État de Michael Cuesta avec Jérémy Renner. Alors au titre Secret d'État pour sa distribution française, les producteurs américains ont préféré Kill the Messenger. Alors si on fait un mix des deux titres, on arrive vite à comprendre l'enjeu du film. Mais encore faut-il rentrer un peu dans le détail. Alors le secret d'État dont il est question, secret qui a bien sûr été brisé, c'est l'affaire des Contras. Nous sommes au début des années 80, les rebelles du Nicaragua travaillent avec la CIA pour introduire de la cocaïne aux États-Unis. Et l'argent issu de ce trafic sert à armer les milices des Contras, soutenues donc par les États-Unis. Donc soyons encore plus clairs, ça n'est pas la CIA qui vend la drogue, mais elle ferme les yeux et facilite le trafic de drogue. La raison en est simple, le Congrès refuse de fournir plus d'argent pour soutenir la guérilla au Nicaragua, et comme c'est une sale besogne, c'est donc la CIA qui s'y colle. Voilà ce que va dévoiler donc Gary Webb, journaliste du San Jose Mercury News, un canard pas forcément connu, et c'est peut-être une partie du problème.
Nous ne sommes pas toujours en accord avec notre agence, ce qui rend ceci un peu délicat pour nous. Mais vous allez toucher des zones un peu sensibles. Il y a différentes opérations en cours et vous risquez de les compromettre. Des opérations qui ont pris des mois, des années à mettre en œuvre. Des milliers d'heures de travail et des millions pour le financement.
Bon, et vous savez quoi?
Que vous êtes allé au Nicaragua. Que vous avez vu Ménécis.
On m'a suivi ou quoi?
Quelles sont vos conclusions, Webb? Que les informateurs du gouvernement sont des salopards?
J'ai comme l'impression que vous avez un message à me faire passer. Mais pour répondre à votre question, non. Mes conclusions sont que notre gouvernement savait que la drogue inondait les rues pour financer une guerre illégale.
Ce que vous essayez de dire ne s'est jamais passé.
Alors pourquoi je suis là?
Deux jeunes Américains allaient mourir dans cette guerre.
Deux jeunes Américains sont morts et meurent encore aujourd'hui. Mais ceci ne vous préoccupe pas apparemment.
Jamais nous ne menacerons vos enfants.
Et ça continue. Et c'est une séquence clé du film puisqu'elle conditionne toute la suite. Tant que le journaliste enquête, ça va encore. On peut le contrôler, mais dès qu'il écrit, la CIA est alors sommée de s'expliquer. En écrivant sur cette histoire, en se documentant comme il faut, allant au Nicaragua ou Honduras, rencontrer des sources capables de lui certifier l'existence d'un tel trafic, le journaliste se met en danger. Pas nécessairement physique, mais plutôt professionnel. C'est là un des aspects de ce secret d'État, de montrer que les pressions ne viennent pas seulement de la CIA et du gouvernement, qui aimerait bien qu'on cesse d'écrire sur des agissements clandestins, mais aussi des grands journaux qui sont passés à côté de l'affaire. Des grands journaux qui font leur contre-enquête, qui sont pilotés par des sources pro-CIA, et le propre journal de Gary Webb qui commence aussi à prendre peur et qui, on l'imagine, reçoit lui-même des pressions. Pour tout dire, le scandale du Watergate, tout navrant qu'il est pour la démocratie, n'est pas grand-chose à côté de pareille histoire. Ce que montre aussi Secret d'État, qui n'est pas non plus un documentaire, c'est que la minorité noire s'est sentie offensée et trahie par le gouvernement car la drogue était vendue dans les quartiers à majorité noire. Alors dites non à la drogue, disait la femme par exemple de Ronald Reagan dans des spots publicitaires, mais pendant ce temps-là, fermons les yeux et faisons la guerre. Secret d'État passe vite sur cette hypocrisie, nous plonge un petit moment dans les rouages des Contras, mais ne fait pas l'impasse sur la vie familiale de l'enquêteur Gary Webb. Alors si nous étions restés dans le thriller politique, c'eût été bon, mais nous explorons aussi la vie de famille d'un journaliste californien qui finit par laisser beaucoup d'énergie à se battre pour la vérité, pour que les faits soient connus. Alors, au-delà des rapports qu'entretient le journaliste avec sa femme et ses enfants, il y a la relation à son journal, ça c'est beaucoup plus intéressant. Le journaliste est sur un piédestal dont il ne tombera jamais. À un moment, il se pose en chevalier blanc face à une corporation vendue, c'est un peu fort, mais pourquoi pas. Et ce qui est un peu plus dommage, c'est que pour forcer le trait du héros, on a l'impression qu'il est habitué à traiter des histoires banales, alors qu'il a déjà eu, quelques années auparavant, un prix Pulitzer collectif, dans la vraie vie, j'entends. Donc c'est une amnésie étonnante de la part du scénariste. scénariste. Le film souffre donc de cette vision toute dévouée à son héros, ainsi que d'une certaine facilité à aller sur le terrain sacré de la famille. Alors évidemment, quand on parle de la responsabilité de milliers de morts d'overdose d'un côté, exacerber le ciment familial fonctionne toujours, mais c'est maladroit et un peu grossier. Jérémy Renner, en revanche, qui incarne le journaliste, lui donne un côté tête brûlée qui ne pose pas question. C'est un film classique avec quelques tics, comme la caméra à épaule, hein, pour marquer l'agitation. Un film qui, malgré ses maladresses, stimule une réflexion sur les limites de l'expression de la vérité dans la presse écrite. Voilà, c'est Secret d'État et c'est toujours eh bien, sur les écrans. Manu, on ne parlera pas de la Hammer aujourd'hui.
Je ne parlerai pas de la Hammer aujourd'hui, donc je vais reporter le sujet la semaine prochaine avec une grande pointe de tristesse.
Et oui, mais on a été bien trop gourmands.
Ce sera encore meilleur la semaine prochaine.
On a préféré parler d'histoires sordides à travers tous ces films aujourd'hui dans Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Aujourd'hui, c'était Laurent Cantet. La semaine prochaine, vous entendrez Abdel Malik pour son premier film et J'aime Rosales, réalisateur espagnol. Deux interviews. Et quant à vous?
Eh bien, la Hammer, hein, évidemment.
Et moi, je vous parlerai de White Dogs, un film qui a l'air extrêmement intriguant avec beaucoup de chiens dedans.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.